Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Micro-Rebelle Hebdo. Alors, Micro-Rebelle Hebdo est diffusée chaque semaine, hein, sur le site de notre web radio, microrebelle.fr, et chez nos amis de PFM 99.9, hein, que l'on remercie pour leur chaleureux accueil. La Micro-Rebelle, c'est la radio, c'est une radio d'actualité, hein, une radio d'information. Nous sommes centrés sur la transformation, hein, la transformation sociale, la transformation politique, économique, hein, pour le féminisme, une radio antiraciste, anticapitaliste, une radio écologique. Hein, c'est un peu tout ça qui nous définit. Une radio des alternatives, hein, pour une nouvelle société, au plus près des gens, au plus près de celles et ceux qui construisent des alternatives, qui construisent des nouvelles pratiques, donc auprès des associations et des collectifs militants. Alors bien sûr, beaucoup dans le bassin minier, hein, autour de Lens-Levin et Nain-Carvin, mais pas seulement. Hein, on s'efforce d'être attentif à tout ce qui peut contribuer à une autre actualité, une autre information, telle qu'on la conçoit. Alors aujourd'hui, ce micro-rebelle hebdo, on va reprendre quelques petits points de l'actualité récente, hein, sur notre territoire. Vous proposer quelques annonces, hein, quelques annonces notamment de sorties qui nous ont semblé intéressantes, et puis un reportage. Alors on va commencer par l'actualité la semaine passée, hein, mardi dernier, hein, sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. On avait évoqué le suicide du jeune Kim, hein, un jeune migrant vietnamien de 25 ans, qui s'est suicidé à l'hôpital psychiatrique après un séjour à la prison de Sequedin. On avait exposé la semaine dernière, hein, la honte que ça nous inspirait concernant la politique migratoire de la France. Et puis la rage aussi, la rage devant la politique carcérale qui broie des jeunes comme Kim. Hein, Kim, il était incarcéré à Sequedin. Sequedin, c'est une prison moderne, hein, comme on dit aujourd'hui. Mais en fait, c'est une prison complètement déshumanisée. Kim n'a pas supporté son incarcération. Kim n'a pas supporté le sort qui lui était fait. Et donc le collectif Fraternité Migrants, hein, qui accompagne les migrants vietnamiens à Angres en particulier, a organisé une collecte, hein, on en avait également parlé, une collecte pour les obsèques avec un objectif assez élevé, hein, c'est la possibilité de rapatrier la dépouille de Kim. Alors c'est très cher, hein, le rapatriement d'un corps au Vietnam. Donc le collectif s'est mis en quête de procéder à une souscription très large. Hein. La communauté vietnamienne à Paris a également été mobilisée. Et donc ce qu'on peut dire cette semaine, donc une semaine après, c'est que cette collecte est finalement un succès. Hein. Elle rencontre un certain succès. On peut dire, c'était pas certain la semaine dernière, mais on peut dire que le corps va pouvoir être rapatrié au Vietnam. Alors bien sûr, on peut continuer la collecte. Hein. Il y a toujours la possibilité de contacter le collectif Fraternité Migrants, fraternité.migrants@free.fr. On peut participer à la collecte directement sur le site litchi.com, hein, ou en s'adressant au collectif Fraternité Migrants. Alors, toujours dans l'actualité récente, on voudrait évoquer cette semaine la résistance à l'installation des compteurs Linky. Alors les compteurs Linky, hein, je pense que maintenant on commence à bien savoir ce que c'est. Ce sont ces fameux compteurs connectés, hein, qui permettent notamment une télérelève à distance. Alors, ce sont des compteurs qui aussi permettent d'avoir une parfaite vision, hein, de votre consommation électrique. Hein. On peut savoir à quelle heure votre aspirateur, à quelle heure vous mettez en route votre aspirateur, à quelle heure vous procédez à tel type de consommation électrique. Donc en fait, c'est un mouchard, hein. C'est un mouchard qui permet de bien surveiller un petit peu l'activité électrique, l'activité de consommation électrique de chaque foyer connecté. Ça peut d'ailleurs aussi permettre, hein, ça fait partie des craintes, permettre des offres commerciales, autrement dit. Hein, vous savez, un petit peu comme sur Facebook, vous êtes profilé, on sait un petit peu, on connaît vos habitudes de consommation. Et bien là, au niveau électrique, c'est un peu pareil. On va connaître les habitudes de consommation de chacun. Et puis, en fonction de votre type de consommation, votre type d'habitude, votre type d'usage électrique, ben, on va vous faire des propositions à la fois pour baisser votre consommation sur tel secteur ou pour peut-être optimiser tel appareil électrique, enfin bref, des offres commerciales qui vont régaler telle et telle société privée. Voilà, Linky, c'est un petit peu tout ça au niveau traçabilité, au niveau mouchard, au niveau fichage, hein, on peut le dire aussi d'une certaine manière. Et puis Linky, c'est aussi le fait que notre vie devient une vie algorithmique. Hein, on est soumis à des machines, on est soumis à des programmes informatiques hein, qui régentent un petit peu de plus en plus de choses. Et c'est bien normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui refusent cette situation. Et c'est bien ce qui explique la résistance à l'installation des compteurs Linky. Hein, donc il est prévu que toute la France, petit à petit, soit équipée de ces compteurs. Eh bien, dans toute la France, il y a des résistances, hein, il y a des hommes et des femmes qui se mobilisent, qui refusent, qui signent des pétitions, qui envoient des lettres commandées en refusant qu'on installe ce type de compteur chez eux. Enfin bref, il y a une belle mobilisation à ce sujet-là. Alors donc EDF, EDF a désigné une société, la société Enedis, hein, pour la mise en place de ces compteurs. Et donc, dans notre territoire, on peut évoquer le cas très, très sympathique et très intéressant de la commune de Villers-aux-Bois. Hein, c'est un petit village entre le bassin minier et Arras. Et bien là, les habitants ne sont pas d'accord. Effectivement, ils pétitionnent. Il y a des réunions publiques, des délégations aux mairies. Le maire, justement, lui, il est favorable à la pose de ces compteurs. Hein. Le maire, c'est Jean-Pierre Blancard. C'est quelqu'un qu'on connaît un peu. Hein. Il est vice-président de l'agglomération, il est vice-président de la CAL. Notamment, c'est lui qui reconduit les contrats de gestion de l'eau avec la multinationale Veolia. Bon, bref, on n'est pas très surpris qu'il aille dans le sens de EDF et Enedis pour favoriser la pose de ces compteurs Linky. Et donc, à Villers-aux-Bois, donc la commune de Jean-Pierre Blancard, la population n'est pas d'accord, refuse, se mobilise contre la pose de ces compteurs. Alors, la société Enedis, qui est censée installer ces compteurs, elle intervient actuellement sur Villers-aux-Bois. Elle a sous-traité la pose des compteurs à une société qui s'appelle la société Syncom. Et on constate, et les habitants de Villers-aux-Bois constatent que Syncom se met à installer des compteurs, y compris chez des gens qui l'ont refusé par lettre commandée, y compris chez des gens qui ont clairement affirmé leur souhait de ne pas avoir de compteur. Alors, évidemment, aucun compteur ne peut être installé chez des gens dont le compteur est à l'intérieur de la maison. Comme on dit, si la maison est fermée, personne ne peut y aller. Mais parfois, les compteurs sont à l'extérieur. Et dans ce cas-là, la société fait le coup de force, en quelque sorte, fait le coup de force pour que le changement du compteur ait lieu, même si les personnes l'ont refusé. Il y a même un argument un petit peu aberrant qui a été exprimé par Syncom Enedis. C'est une fantaisiste règle des 7 mètres. Autrement dit, Syncom aurait le droit de pénétrer à l'intérieur du périmètre de la propriété privée des habitants sur une distance de 7 mètres. Autrement dit, si le compteur il est 7 mètres au bord de la rue, eh bien, Syncom aurait le droit d'y aller. Bon, ça semble un argument un peu fantaisiste. Hein. Le collectif qui se mobilise à Villers-aux-Bois est en train de vérifier cet argument, mais bon, il n'y a aucune crainte à avoir. Si c'est dans l'emprise de la propriété privée, il est absolument interdit à quiconque, et notamment à Syncom et Enedis, d'aller changer les compteurs. Voilà, donc bref, une actualité qu'on va suivre, hein, parce que ça nous semble intéressant de relever cette mobilisation. Ça nous semble aussi intéressant de mettre le doigt sur la mauvaise foi et de ce type de société, hein, Syncom Enedis, EDF, pour favoriser la mise en place de ce type de compteur, soi-disant pour le bien de tous, pour le progrès de tous. Affaire à suivre, je pense qu'on en reparlera et on va suivre de très près cette mobilisation à Villers-aux-Bois. On va maintenant faire quelques annonces, hein, quelques annonces pour la semaine qui vient. Quelques annonces de sorties, hein, de spectacles qu'on peut vous conseiller. Alors on va commencer par deux conférences gesticulées qui se tiennent au LAG, hein, le lieu autogéré du bassin minier, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Alors deux conférences gesticulées, qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée? Alors c'est un outil d'éducation populaire qui permet de partir de son propre récit de vie, hein, de son récit personnel de vie, pour transmettre un message politique. Voilà, globalement c'est ça une conférence gesticulée. Alors la conférence, elle est articulée autour de ce qu'on appelle des savoirs chauds, qui sont donc tirés du vécu de la personne qui gesticule, et de savoirs froids, qui sont tirés d'études, d'articles, d'ouvrages et de recherches universitaires qui permettent d'étayer et de consolider son propos. Voilà, donc ça c'est la présentation générale des conférences gesticulées. Je pense que vraiment le plus simple, c'est que chacune et chacun d'entre vous assiste à ce type de conférence gesticulée. Donc il y en a deux au LAG qui sont programmées dans la semaine qui vient, hein. Une vendredi soir et une samedi soir. Donc celle de vendredi soir, donc on sera le vendredi 16 juin, hein, c'est à 20h au LAG, et c'est une conférence qui est menée par Martine Ferron sur la thématique « J'étais prête à devenir un bon petit soldat de l'éducation nationale ». Alors la présentation que fait Marine de sa conférence gesticulée, c'est la suivante. Marine est une jeune enseignante entrée dans le système scolaire, les étoiles plein les yeux. Dès les premiers jours, elle est confrontée aux injonctions paradoxales de la grande machine éducation nationale. Elle vous racontera son expérience du système scolaire vu de l'intérieur, la pseudo-formation des enseignants, ses gros déboires, ses petites victoires et ses manœuvres pour s'émanciper de ce système. Donc ça, c'est notre première conférence gesticulée au LAG, hein, ce vendredi 16 juin à 20h, conférence gesticulée de Martine Ferron. J'étais prête à devenir un bon petit soldat de l'éducation nationale. Et la deuxième conférence gesticulée, donc c'est le lendemain, c'est le samedi 17 juin à 20h, toujours au LAG, à 23 avenue Jean Jaurès. C'est une conférence qui est proposée par Julie Babahami de Souza sur le thème « Hasta siempre la libertad » ou une autre histoire de la désintégration. Donc on va, je vais vous lire ce que nous propose Julie Babahami de Souza. C'est à partir de mon histoire, celle d'une jeune femme d'appellation d'origine 100% contrôlée, que je me questionne sur la notion de liberté et ce qu'elle recouvre dans la société contemporaine. À travers le vécu de mes parents immigrés et mon parcours de vie, j'expérimente et analyse les limites de la liberté. Je réalise que la conception actuelle de liberté est plutôt restrictive, tout comme la conception actuelle prédominante de l'identité et de l'intégration à la nation française. C'est mon histoire professionnelle aussi, celle d'une conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, passionnée, qui évolue en tentant de surmonter les obstacles posés à son émancipation dans un contexte de restructuration de la fonction publique et des politiques de jeunesse. C'est aussi l'histoire d'une musicienne, un peu clown sur les bords, éprise de poésie, de slam et de trombone, qui aime raconter des histoires avec une mélodie qui va de Che Guevara à Pierre Perret, en passant notamment par Robespierre, Olympe de Gouges et Bakounine. Donc cette deuxième conférence gesticulée, c'est ce samedi prochain, samedi 17 juin à 20h au LAG, le lieu autogéré du bassin minier. Une dernière annonce hein, qu'il nous a semblé intéressant de mentionner dans ce micro-rebelle hebdo hein, pour la semaine qui vient. C'est le lendemain, c'est le dimanche 18 juin. Ça se passe à Culture Commune, hein, sur la base du 11-19 à Los Angeles. C'est à 16h, c'est du théâtre de rue. Et c'est une pièce qui s'intitule « Commune Révolte », justement par le collectif du même nom, le collectif « Commune Révolte ». Alors je vais vous décrire un petit peu cette pièce hein, qui donne très sincèrement envie d'aller y assister. À une époque comme la nôtre, marqué par l'incertitude et le matérialisme, il paraît intéressant de s'interroger sur les grands changements qui sont survenus dans le monde suite à un soulèvement populaire. Comment des mouvements inattendus et localisés, qui naissent de plus en plus sans organisation, peuvent-ils mobiliser subitement des gens? Comment un mouvement local, une grève ou une manifestation, arrive-t-il à embraser un pays entier? Comment la rue devient le théâtre du soulèvement? Donc ce spectacle, hein, Commune Révolte, c'est dimanche prochain, le 18 juin, à 16h, sur la base du 11-19 de Los Angeles. Bien, après ces actualités et puis ces annonces hein, sur microrebelle.fr et sur Radio PFM 99.9, c'est maintenant l'heure de notre reportage un peu plus long. Hein. Et donc, on a choisi aujourd'hui de vous présenter quelques extraits d'une émission qui est mise en œuvre par des jeunes et qui s'intitule L'actualité vue par les jeunes. C'est une émission sur Microrebelle qui est en quelque sorte équivalente à l'Actualitym sur Radio PFM. Et donc, les jeunes se voient assez régulièrement, font des émissions régulières. Bon, en ce moment, il faut être conscient que c'est la période du bac hein, pour la plupart de ces jeunes lycéennes et lycéens. Donc, c'est un petit peu une équipe restreinte qui assure ce type d'émission. Alors, l'émission qui a été réalisée cette semaine par les jeunes, notamment par Aurélie et Jonathan, c'est une émission un peu particulière puisque c'est une émission avec un invité, ou plutôt une invitée. L'invitée, c'est Louise. Hein, Louise, elle est salariée du planning familial. Et donc, Aurélie et Jonathan ont souhaité avec Louise, débattre, échanger sur des thèmes hein, tels que la sexualité, le corps des hommes et des femmes, le plaisir, la contraception féminine et masculine, l'avortement, l'homophobie, enfin toute une série de thématiques que prend à bras le corps le planning familial du Pas-de-Calais avec ses salariés et ses bénévoles. Donc ses salariés comme Louise qui était l'invité des jeunes de Micro-Rebelles. Alors, donc c'est une émission qui est un petit peu longue, hein, qui ne peut pas être diffusée complètement dans le cadre de ce Micro-Rebelle Hebdo. Si vous souhaitez l'écouter en intégralité, eh bien, elle est disponible sur le site de notre web radio, hein, micro-rebelle.fr. Hein. Vous pourrez la podcaster ou la réécouter complètement. Aujourd'hui, hein, dans le cadre de ce Micro-Rebelle Hebdo, on vous en propose quelques extraits. Je vous retrouve tout à l'heure.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Micro-Rebelle dans la rubrique L'actualité vue par les jeunes. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, nous sommes en compagnie de Loïse qui est une personne qui travaille au planning familial. Donc il y a aussi Jonathan qui est là et Lucien qui est en technique et moi-même du coup. Donc on se retrouve juste après la fin du générique, à tout de suite. Jonathan, je vais te demander, est-ce que tu te sens privilégié par rapport. Enfin, on va dire que pour moi, de mon point de vue, quand on est un homme, quand on est blanc et qu'on a, je sais pas, moi, qu'on a une situation, qu'on vient d'un, je sais pas, d'une famille
Aisé.
aisée, voilà.
Qu'on est hétérosexuel aussi.
Voilà, qu'on est hétérosexuel, on est forcément avantagé. Enfin, selon moi, c'est mon avis, mais après, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, je vois pas où est l'avantage. Parce que... Non, je vois pas du tout ce qui est l'avantage. Parce que par exemple, je veux dire que je connais quelqu'un qui est gay et pourtant. Il se débrouille mieux que moi, il est beaucoup plus. Je pense qu'il y a peut-être plus d'avantages. Va dire, il est beaucoup plus mûr, plus mature que moi. Alors,
moi, est-ce je que sais tu pas penses dire. pas que sa maturité, elle pourrait être liée au fait que s'il n'est pas hétérosexuel, on lui a renvoyé dans la figure qu'il n'était pas hétérosexuel?
Non, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui bosse, qui du mérite, justement. Parce qu'en fait, on est ce qu'on est avec le travail qu'on a parcouru durant notre vie. C'est pas avec. Avec, c'est pas les choix en fait, c'est le travail en fait. Moi, je dis que c'est le travail qui fait la personne.
Alors là-dessus, sur un truc notamment par rapport à la réussite dans les études des personnes non hétérosexuelles, il y a des choses intéressantes. Il y a deux personnes qui ont écrit là-dessus qui s'appellent Didier Ribon et je crois que c'est Édouard Louis qui a écrit un truc qui s'appelle Pour en finir avec Eddie Bellegueule. Et ils expliquent qu'en tant que personnes non hétérosexuelles, leur seule manière de sortir de leur milieu social qui était pas aisé, c'était en fait les études, c'était d'être brillant à l'école, c'était l'école devenait pour eux le moyen de partir de leur petit trou paumé et d'avoir accès aux grandes villes où on leur renverrait pas que ne pas être hétérosexuel, c'est un problème. Moi, je vois sur... Il y a une personne qui avait fait un TED sur la question de pas être hétérosexuel. Dans ton travail, comment tu fais pour dire à tes collègues, tu vois, tes collègues, ils vont raconter leur week-end. Moi, j'étais avec mon copain. On a été à la mer avec nos trois enfants. Nanana, on a fait ci, on a fait là. Et toi, dire que t'es pas hétérosexuel, tu sais jamais comment ça va être reçu. Moi, j'ai des potes qui bossent dans des grandes boîtes. Personne sait qu'elles sont pas hétérosexuelles.
Parce que moi, faut dire que ça me choque pas du tout quand on me dit qu'il est homo. Moi, je m'en fous totalement. Simplement, c'est que par exemple, il respecte, on va dire, mon hétérosexualité. Qu'il ne veut pas, par exemple, me draguer alors que je ne suis pas attiré par les hommes, tout simplement.
Vas-y, bah, tu vois, après, Jonathan, du coup, je rebondis tout de suite de ce que tu viens de dire. J'ai vu la tête de Louise qui t'a regardé en mode, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, tu sais, il y a aussi des hétérosexuels qui peuvent te sauter dessus. Enfin, c'est pas parce que, enfin, il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça en mode, oui, il est homosexuel, ou bien voilà, il va me sauter dessus directement parce que je suis du même sexe que lui. Faut pas le voir comme ça, je pense. Je pense que, en fait, c'est juste une personne qui intègre et qui a une vie amoureuse. Et c'est pas parce que tu es du même sexe qu'elle et qu'elle aime le même sexe que toi. Enfin, voilà quoi. Qu'une personne, par exemple, un homme est homosexuel et qu'il est son ami, que forcément, il aura envie de...
Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça.
D'essayer de te pécho, entre guillemets, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes là-dessus et c'est dommage.
Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. Pourquoi en fait, que je dis ça? C'est peut-être par expérience. Parce qu'en fait, il pensait que, vu mes manières, tout, il pensait que j'étais gay, tout simplement. En fait, il m'a mal entendu, mais il pensait que j'étais... Parce qu'il disait que je prenais soin de moi. J'ai dit, c'est pas pour autant qu'on prend soin de soi, qu'on est forcément gay. Toute personne peut prendre soin de soi et avoir une relation sexuelle variée, on va dire.
Oui, après, tes potes, s'ils savent que t'es hétéro, globalement, ils vont pas t'embêter. Enfin, moi, ouais. Je pense que mon souci, souvent, quand on fait des animations sur ces questions-là, c'est que tous les hétérosexuels, et surtout les garçons, ils ont l'impression que c'est trop des beaux gosses et que, en gros, tous leurs copains vont leur sauter dessus. Alors, oui, ils sont chouchous, hein. Voilà, je vais pas remettre en cause. Heureusement qu'ils ont confiance en eux et c'est top, mais à un moment, faut arrêter de croire qu'ils ont un sexe à pile et que tous les homosexuels vont avoir envie de leur sauter dessus et de déchirer leurs vêtements. Je pense que non, ça va, il y a du respect et que les personnes, en fait, quand elles savent qu'elles ont aucune chance, elles vont pas aller se prendre un mur, etc. Elles tentent le coup, bon, ça marche pas, elles sont pas harcelantes et quoi que ce soit. Et puis l'autre chose, après, comme tu disais, la personne, elle pensait que t'avais des manières qui pouvaient renvoyer à une prétendue, enfin voilà, au stéréotype de l'homosexualité. Je trouve que ça pose aussi vachement la question de, oui, en fait, il y a des femmes qui sont porteuses du sexisme, il y a des homosexuels qui sont porteurs de l'homophobie ou porteuses de l'homophobie, et que c'est pas parce qu'on est concerné toujours que ça veut dire qu'on n'a pas aussi nos représentations, nos stéréotypes contre nous-mêmes parfois, en fait, et on voit que l'homophobie intégrée, elle existe, que le sexisme qui est exercé par des femmes, il existe, et que ça légitime pas pour autant que ça ait cours dans notre société, en fait, et soyons féministes.
Sur ce mot touchant, nous allons faire une courte pause musicale. Donc, je vais laisser Louise faire la présentation de la musique, puisque c'est elle qui a choisi les musiques aujourd'hui, et c'est des très bonnes musiques d'ailleurs. Donc,
ouais, c'est ma playlist. Voilà. Alors, là, ça va être Grâce et Volupté Van Van. Donc, c'est la chanson Collier de couilles pour un peu dépoussiérer l'hétéropatriarcat.
Bizarre cette manière qu'ils ont de nous demander de justifier, nous questionner sur la non-mixité. À croire que si on les suce pas, on n'est pas leurs alliés. Pour moi, la question est inversée.
J'en ai marre d'argumenter.
Je n'ai rien à te prouver. L'insurrection et les pavés,
on en parlera quand t'auras ton diplôme d'éduxpé.
Je me fous totalement
de ta tolérance. De toi, coco connard, je n'attends aucune reconnaissance.
Le lien de confiance est brisé, arrête de me saouler.
Pendant les hauts et courts,
c'est à moi que c'est adressé.
Salope d'état, grosse pute de syndicat.
C'est dans tes tracts qu'a écrit ça. Mais bien sûr, rien à voir avec l'hétéropatriarcat.
Aucune raison que je râle, que je fasse un caca.
C'est que des mots, tout ça
n'en fait pas tout un drame.
Madame. Féministe, extrémiste,
à tendance nazie, comme tu dis, ouais. C'est moi la coupeuse de pénis,
suceuse de clito,
qu'aiment pas les hétéros.
Oppression quotidienne que tu subis,
des lesbiennes.
français. Tu bugs et tu bugs comme dans une tête d'ingénieur. Franchement t'es pas meilleur. Dès qu'on lâche l'espace, tu prends toute la place. On est clairement pas de la même classe. Alors t'étonnes pas des masses. Si avec mon crew de pétasse, on veut juste que tu te casses.
Et qu'on s'en bat les reins
si tu bouffes des baffes.
Assez clairement ce que tu captes du féminisme,
c'est le droit à l'avortement.
Le seul truc qui fait que
tu peux tremper ta bite plus tranquillement.
Le reste dépasse
ta graisse et ta gasse.
Dès que je veux plus que tu me craches à la face, tu lances ta rhétorique de rapace.
Vous êtes fascistes vous les féministes.
Point Goldwyn touché. Bien joué. Hey, je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un point G.
Donc on est de retour du coup voilà après la petite pause musicale. Yeah, on espère que vous avez aimé du coup pour le coup voilà. Donc on va réattaquer sur ce qu'on disait juste avant. Il me semble qu'on parlait des homosexuels et des stéréotypes. Ouais, il me semble.
Oui. Ouais.
Donc je disais pendant la pause que je trouve que au niveau des hétérosexuels, il n'y a pas beaucoup de stéréotypes, enfin j'en connais pas ma connaissance.
Moi
comme
non
ça
plus.
Là, j'en ai pas en tête. Mais sur les homosexuels, il y en a plein. Par exemple, quand les femmes sont... j'aime pas trop ce terme, mais quand les femmes sont lesbiennes, on... Bah,
c'est le terme qui a cours, hein, lesbienne, ça se dit.
Ouais, c'est vrai.
C'est Gwyn,
mais ouais,
qui peut pas c'est... être dit par les personnes qui sont pas concernées. C'est-à-dire qu'une femme qui couche avec des femmes et qui veut se définir Gwyn, elle peut se définir Gwyn, mais personne peut l'utiliser, ce mot, si elles sont pas concernées, ces personnes-là.
D'accord, merci.
Ça devient une insulte. Mais lesbienne, après, lesbienne, c'est totalement politiquement correct.
D'accord. Ah. Merci pour l'info, du coup,
j'aurais désolée,
pu...
Désolée.
Mais non, c'est toujours bien de savoir et...
Ouais, je savais voilà. Quoi, d'ailleurs.
Mais du coup, par exemple, on dit des lesbiennes que forcément, il y en a une qui fait l'homme et une qui fait la femme.
Et
ou bien au niveau
de...
des homosexuels, des gays ou quoi. Beaucoup disent, oui, bon, ils sont toujours efféminés sur des manières. Bon, j'ai des amis qui ont des manières et ils ne sont pas du tout... homosexuels.
J'ai pas envie de savoir qui tu parles.
Oui, tu t'es reconnu, Jonathan.
Ah, je pensais pas de moi, mais bon.
Mais non, je rigole, je te taquine.
Ouais, comme d'hab.
Mais ouais, alors après, sur ce truc des stéréotypes, les stéréotypes, souvent, ils rejoignent aussi toute cette idée de blague. Et est-ce qu'on connaît vraiment des blagues sur des hommes blancs, hétérosexuels, riches, qui sont pas en situation de handicap, etc., etc. Et finalement, et hétérosexuels. Il n'y a pas de blague sur les hétérosexuels. Alors que si on demande des blagues sur les personnes qui sont gays ou lesbiennes, etc., on peut en trouver plein. Et les stéréotypes, ils sont aussi ancrés dans là-dedans. C'est-à-dire que les stéréotypes, c'est un moyen de classer des gens dans des cases. Et après, on peut devenir discriminant en jouant et en rigolant. Et donc, c'est un moment de casser ces cases-là, casser les codes et de permettre à tout le monde d'être et de faire ce dont il ou elle ont envie. C'est-à-dire, un moment, oui, il y a des lesbiennes à cheveux longs, il y a des gays hyper virils, qui rentrent dans les codes de virilité sociétale. Voilà, tout existe et à un moment, c'est ça qui est chouette aussi. Ça veut dire que chacun, chacune, on peut être... qui on avait envie d'être en ayant les sexualités, les codes qu'on a envie, et puis voilà, s'amuser.
C'est vrai que, voilà, on va dire que... Personnellement, j'ai l'impression que tous ces stéréotypes, ils reviennent un peu... Enfin, ça fait référence à l'hétérosexualité, en fait.
Ouais, bah, le plus souvent, en fait, en tout cas, l'hétérosexualité, elle est mise en place comme norme, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité, c'est-à-dire le fait d'être hétéro comme une norme sociale et comme, ça, c'est normal, et en fait, tout ce qui n'est pas hétérosexuel, c'est anormal parce que tout est basé sur la reproduction, alors que ça fait longtemps que notre sexualité, elle est pas uniquement basée là-dessus, et les gens, en fait, ils font pas l'amour uniquement pour se reproduire, ils font aussi l'amour pour avoir du plaisir, pour s'éclater, pas pas tout seul, enfin voilà, tout seul, à 2, à 15, avec des hommes, des femmes, des personnes qui se définissent pas forcément, des personnes intersexes, et en fait tout ça n'a pas un but de reproduction, et c'est chouette en fait. Et donc ouais, l'hétéronormativité, elle est là pour rappeler, pour nous rappeler que c'est bien un papa, une maman, alors que sur notre territoire, on peut voir le nombre de familles monoparentales qui est énorme dans certains lieux, et où on fait bon bah un papa, une maman, on est un peu loin de ça, et à un moment, remettons en question tous nos vieux, enfin ouais, toutes nos vieilles normes un peu poussiéreuses là.
C'est vrai qu'en plus, comme tu viens de dire, la monoparentalité, à propos de ça, bon, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu plus fermées par rapport à l'adoption, enfin, les couples homosexuels qui adoptent des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on pourrait repousser ces vieilles mentalités, et notamment en France, on va dire ? On va se localiser sur la France.
Alors, il faut se dire quand même qu'en 2013, au moment où il y a eu des choses par rapport à, enfin, la loi, le passage de la loi du mariage pour tous et toutes, on a quand même eu, alors je pense pas que c'était les premières, mais un gros mouvement social de droite conservatrice qui disait des horreurs sur les questions LGBT, ils étaient homophobes et ils prenaient voilà, c'était des pubs partout, un papa et une maman, on leur donnait la place sur la sur enfin on leur donnait l'espace sur la enfin voilà, l'espace public pour eux. Moi je me souviens des merveilleuses à Lille qui brûlaient des cierges pour tous ces pêcheurs et pêcheuses homosexuels pour sauver leur âme, etc. C'était d'une violence mais folle quand même, et donc l'adoption pour les couples homosexuels, alors elle est possible quand les enfants ont 18 ans, hein, je précise quand même, donc c'est pas une adoption pleine, c'est des adoptions, enfin des types d'adoptions un peu plus spécifiques, mais par exemple sur deux femmes qui décident d'avoir un enfant ensemble, il y en aura qu'une seule qui aura sa responsabilité. Alors normalement il y a eu quelques petits changements, pour le coup je suis pas vraiment au point légalement là-dessus, mais ça serait peut-être à creuser avec d'autres personnes plus spécialisées sur la question, mais en tout cas moi je pense que ce soit ça ou bien l'accès de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, on en est loin. On a un mouvement réactionnaire et conservateur dans notre pays, et homophobe et patriarcal, qui a encore de beaux jours devant lui, quoi.
C'est vrai que, notamment, il y a beaucoup de sujets au niveau de tout ce qui est les femmes, tout ce qui est aussi l'homosexualité, où en France, c'est quand même très dur, notamment aussi sur l'avortement. On voit, c'est surtout bon, la droite qui pense ça. Bon, après, il y a aussi des gens de gauche, hein, je dis rien, mais je veux dans le sens où le rejet, c'est de tous ces sujets-là, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font des manifestations pour ça, notamment pour l'avortement. Il me semble que c'était il y a pas très très longtemps. J'avais vu une vidéo sur les réseaux sociaux où une femme disait que chaque bébé avorté est un génie de moins ou un truc du genre, et que ces bébés lui manquaient parce qu'ils n'étaient pas nés. Je trouve que ces gens-là.
C'est le mouvement des survivants. C'est le mouvement des survivants.
Oui,
c'est exactement. On est tous des survivants parce que nos parents nous ont pas avortés. Alors, bon, c'est compliqué, hein, parce que pour le coup, ils ont beaucoup de sous. Ils sont hyper soutenus. Ils ont donc le représentant de ce mouvement, c'est l'ancien directeur de communication de la Manif pour tous. Oh, on fait des liens d'un seul coup. Voilà. Et voilà, ils sont en train de dire que il faut interdire l'IVG parce que on est, oui, en train de tuer des génies, de tuer leurs frères et sœurs, de tuer je sais pas quoi. Alors à un moment, bon, faudrait aussi leur donner tous les taux de fausses couches, toutes les grossesses qui vont pas à terme, des choses comme ça. À un moment, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Et puis la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, de penser qu'à un moment, bah c'est peut-être pas le moment. Et puis en fait, il y a des femmes qui veulent pas d'enfants. Il y a plein de choses possibles et ils le considèrent pas du tout. De toute façon, c'est centré uniquement sur leur nombril. Et puis voilà, les femmes, elles, ce qu'elles vivent, bon, on s'en fout un peu, hein, c'est juste des utérus sur pattes. Et puis fallait qu'elles se protègent, non, fallait qu'elles prennent de la contraception, c'est de leur faute, on va les responsabiliser encore plus. Et ça, c'est vraiment les discours de toutes les luttes IVG qui sont vraiment basées sur un truc très sexiste, quoi. C'est-à-dire la question de la contraception par rapport aux hommes, on va pas la prendre en compte, le fait que ce soit les femmes qui doivent prendre toutes les responsabilités sur les questions de grossesse, bon bah voilà, on va pas le prendre en compte. Et puis ce qui est important, c'est nous les survivants, enfin non, stop quoi. Enfin, et oui, ils sont plutôt à droite, et ça c'est très clair. Ils vont encore faire des manifestations où ils vont prier devant des plannings familiaux. Il y a tous les ans devant le planning de Lille, qui est un centre de planification, il y a il y a un mouvement qui vient prier pour tous ces enfants avortés, mais merci mais non merci quoi, enfin stop quoi, à un moment moi je, enfin mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je veux bien que les gens ils soient contre l'IVG pour eux, mais en fait ils peuvent pas choisir pour les autres. À un moment, enfin je trouve ça totalement irresponsable de vouloir priver les gens de liberté. C'est-à-dire que c'est quoi ces mouvements qui disent « Non, mais s'il vous plaît, là, moi, je voudrais que tu sois beaucoup moins libre que ce que tu es. S'il te plaît, arrête d'être libre. Arrête de pouvoir faire des choix. Ben non, en fait, toi, tu fais les tiens, moi, je fais les miens. » Et je pense à des jeunes qui viennent dans notre bureau qui disent « Moi, je suis contre l'IVG, je veux garder la grossesse. » On leur explique là que c'est une cacahuète à telle période, que là, ça commence à ressembler à un truc, je sais pas quoi. Et puis on voit ensemble, on en discute réellement et concrètement. Mais et les personnes, si elles souhaitent pas avorter, elles souhaitent pas avorter. Mais à un moment, je pense qu'il faut que tout le monde soit conscient de tout. Et si les gens veulent pas le faire, ça leur appartient. Et jamais on ira convaincre quelqu'un d'avorter. Mais moi, j'ai pas envie que des gens se permettent de vouloir convaincre des personnes de ne pas avorter.
En plus, si jamais une femme est victime de viol et qu'elle tombe enceinte par son violeur, on va dire l'agresseur, il est normal de pas vouloir garder l'enfant de cette personne. Bah, moi, je trouve ça. Si elle veut avorter, c'est parce que c'est pas de sa faute, techniquement parlant, si elle se fait agresser.
Ouais, alors les lois en plus sont spécifiques, pardon, là-dessus. C'est-à-dire que sur les questions de viol, ça sera pas forcément que des IVG qui seront programmées, donc des interruptions volontaires de grossesse, mais ça peut aussi être une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse. Dans le cadre d'un viol, c'est possible, c'est-à-dire de dépasser la limite, parce qu'on prend en compte comment psychiquement ça peut heurter la personne et lui faire beaucoup de mal. Et donc, finalement, dans le cadre du viol, même la loi sur le IVG est plus large. Donc ça, c'est quand même hyper bien pris en charge en France. Mais par exemple, en Pologne, c'était ça qui était remis en cause. C'est-à-dire qu'en Pologne, il y a ce droit-là dans le cadre du viol, ils voulaient l'enlever. Donc, et l'IVG est tous les jours remis en cause. Et moi, je vois sur le Pas-de-Calais, en 2014, on a dû faire appel aux défenseurs des droits parce qu'à Calais, ils refusaient de faire des IVG aux femmes exilées. Donc, on a dû dire, bah, non, là, ça va pas. Alors, c'était pas en leur disant non, c'était en disant, bon, bah, voilà, vous êtes exilés, donnez-nous une domiciliation. Excusez-moi. C'est l'attente là-bas à droite. Enfin voilà, non, les gens ils ont pas d'adresse, c'était pas possible. Et donc c'était de l'entrave à IVG. Et on le voit dans d'autres hôpitaux du territoire où par exemple quand ils font une échographie avant l'IVG, ils la montrent à la femme, ce qui est interdit par la loi. Mais ça se fait sur notre territoire.
Puis j'ajoute aussi que il y a aussi, il me semble qu'il y a une loi qui est passée il y a pas longtemps, parce qu'avant c'était pas interdit de poster sur internet des sites internet de diffamation sur l'avortement en fait. Donc on montrait par exemple des bébés, un utérus avec un bébé développé de 5 mois, mais on disait ah bah non, ça c'est ce que vous avez dans le corps maintenant. Et bon, ça a été interdit maintenant, il me semble, par l'Assemblée nationale, enfin la loi a été votée, mais c'est vrai que enfin il y a des gens, ils voyaient pas le souci, enfin c'est vraiment
Ouais, c'est ce qu'on appelle le délit d'entrave numérique à IVG, en fait, et qui a été voté il y a quelques mois. Alors, il y avait ce truc des sites totalement faux. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ben ouais, on montre un peu l'idée que ce soit une cacahuète et que non, ça ressemble pas à un fœtus de 5 mois, voilà, ce qui est ridicule. Et puis, il y avait aussi toutes les lignes, c'est-à-dire que dès qu'on tapait IVG sur Internet, c'était pas le site du gouvernement qui passait en premier, c'était un site où en gros, un numéro vert où les gens pouvaient appeler, et l'idée, c'était que on essayait de les convaincre de ne pas avorter. Et si vous voulez, il y a une super chronique de Guillaume Meurice qui les a appelés, et où la femme lui raconte que si sa copine avorte, elle va devenir alcoolique et elle a plus de chances de mourir jeune ou des trucs comme ça. C'était assez marrant. Donc voilà, petite chronique de Guillaume Meurice sur France Inter.
Voilà, du coup, j'irai jeter un coup d'œil parce que c'est vrai que ça doit être quand même.
Ouais, c'est bien drôle.
Drôle à voir quand même. C'est vrai que ces sites de désinformation, c'est quand même affolant. Donc voilà, puis pour revenir un peu sur les survivants, sur ce mouvement qui est en France de plus en plus présent, je pense aussi qu'on pourrait. Enfin, la manière en mode oui, il faut vous protéger si vous voulez pas d'enfants. Enfin, quand même, se protéger, d'un côté, c'est un peu contradictoire aussi avec leur mouvement, parce que, enfin, c'est faire un peu une entrave à la conception, et c'est un peu tuer des futurs bébés, et dans ce cas-là, c'est complètement contraire à ce qu'ils disent, à ce qu'ils prêchent, on va dire.
Oui, déjà, même la masturbation serait contraire à ce qu'ils disent et ce qu'ils prêchent. Hein, donc, au bout d'un moment, tous ces spermatozoïdes qui n'ont pas pu féconder un ovule, mon Dieu, mais ne les gâchons pas.
Mais c'est bien, en plus, un homme n'a pas le mot à dire pour l'IVG, parce que il n'est pas concerné directement, parce que c'est pas lui qui porte l'enfant. S'il ne voulait pas d'enfant, à lui de prendre les précautions.
Oui.
Ou on peut dire plutôt à sa compagne, je veux pas d'enfant, si elle est d'accord, ils peuvent s'arranger, ou sinon, ils trouvent un autre moyen. Mais au moins, justement, discuter si on veut un enfant ou pas, et à prendre des précautions selon la discussion.
Bah exactement, après c'est aussi comment les hommes prennent ou ne prennent pas en charge la contraception, et ça c'est un truc qui nous tient à cœur aussi, c'est-à-dire de se dire, oui, si tu veux pas d'une grossesse, ben, protège-toi, les préservatifs, c'est vrai que c'est l'un des rares moyens de contraception masculin. Alors on en parle très peu, ça aussi, de la contraception masculine. C'est un peu un impensé de nos sociétés, qui a été pensé plein de fois en fait, c'est-à-dire que la contraception masculine a été pensée avant la contraception féminine. Donc ils ont fait des essais sur des traitements avec des pilules, etc. Ils ont essayé pendant hyper longtemps. Alors je crois que les chiffres sont certainement pas justes, mais ça donne un peu une idée. Donc en gros, je pense qu'ils ont essayé sur 1000 hommes pendant 5 ans et qu'ils ont vu que ça avait des effets secondaires. Et ils se sont dit, bon ben il y a des effets secondaires, non ben on peut pas faire ça aux hommes quand même. Et après, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer la pilule, on va essayer de trouver un traitement pour les femmes contre l'idée de la grossesse, donc la contraception. Bon, bah, on va essayer sur 100 femmes pendant un an. Oh, il y a des effets secondaires, pas grave, ça marche quand même, elles sont pas enceintes, allez, on met sur le marché. Et donc, c'est cette idée-là de, bon, finalement, le capitalisme, il dit que, enfin, le capitalisme et notamment sa branche médicale dit, ben, c'est pas grave, t'es une femme, t'as des effets secondaires, l'idée, c'est que tu sois pas enceinte. T'es un homme, toi l'idée c'est que tu peux pas avoir d'effet secondaire parce que finalement c'est pas toi qui portera la grossesse, donc c'est pas intéressant. Et il y a des moyens de contraception, je finis vraiment là-dessus, sur masculins qui sont très peu connus, notamment, alors c'est marrant, ça aurait pu faire écho à l'autre chanson, le remonte-couille toulousain, c'est-à-dire c'est un slip qui permet de, en fait quand les garçons naissent, leurs testicules ne sont pas descendus. Elles sont remontées dans des petites cavités et elles redescendent par la suite. Les cavités existent toujours. Et en fait, les chercheurs avaient remarqué que si on mettait les spermatozoïdes et les testicules dans de l'eau chaude, dans quelque chose, dans une source chaude, en fait, ça ralentissait les spermatozoïdes et ça leur permettait pas de féconder. Et donc, en fait, le slip, il crée une pression qui remonte les testicules à l'intérieur de ces cavités. Alors, ouais, je te vois faire « Ah, ça a l'air de trop faire mal, c'est horrible ah. !» Alors, oui, c'est pas agréable. La pose d'un stérilet ne l'est pas non plus. Hein. Faut savoir que quand on a un truc dans l'utérus, alors c'est génial le dispositif intra-utérin, mais au début, ça peut aussi faire mal. Ça peut faire mal à la pose. Je pense qu'on peut partager cette douleur ensemble à un moment, que les hommes aussi la prennent en charge.
Le préservatif, je pense que c'est peut-être un bon moyen quand même, non ?
Mais il y a des personnes qui n'ont pas envie de mettre de préservatif aussi, donc à un moment c'est ça. Et donc en tout cas, ce remonte-couille toulousain est hyper efficace, hyper effectif, mais pas du tout financé par des labos, pas du tout mis en commercialisation partout. Et aujourd'hui, si on veut y avoir accès, il faut aller à Toulouse.
Ok, bon. D'accord.
Donc on va faire une petite pause musicale et après on revient pour en reparler. Donc je vais essayer encore une fois, Louise, nous faire une petite présentation de la musique.
Oui, c'est les copines de Dykes Beer, qui, donc la chanson elle s'appelle Pardon Maman, et donc c'est une chanson qui parle d'une fille qui rêverait de voir sa mère kinguer. Alors j'explique juste en trois mots ce que c'est que le fait de se kinguer. Si on connaît les drag queens, c'est-à-dire les hommes qui vont reprendre tous les codes sociaux des femmes, les surjouer et les performer, et ben là c'est la même chose mais à l'inverse, c'est-à-dire de personnes femmes qui vont jouer et performer tous les codes masculins. Et donc, elle dit à quel point elle aimerait voir sa mère faire tout ça. Voilà.
J'aurais voulu kinguer ma mère, la voir prendre de la place, accaparer l'espace, trouver classe en face à face avec la populace, s'autoriser à apprendre à dire non, porter la barbe ou la stache et donner le ton aux heures qui suivront. J'aurais voulu kinguer ma mère, la voir apprivoiser le podium, la barre, la cache, crâne rasé, binder, jambes écartées, assez dur l'assemblée, te voir m'en gagner le concours, tu l'as si souvent vu faire, 28 ans de mariage, autant que ça donne un privilège, non. Te voir sans détour, me choquer, juste une fois devant moi, te sentir pleine d'assurance et défiance. J'aurais voulu te kinguer, man. J'aurais voulu te kinguer, man.
Sorry, ma mère, for all this shit. Sorry, ma mère, for all your shit.
Sous les projets d'un cabaret frix, voir du sky en postillonnant des mots qu'on l'a triquement. Que tu prennes l'espace, que tu craches vorace, que tu gardes depuis tant de temps en conquérante, toujours la tête haute, s'enrichir, ne succomber à l'éducation du bien-pensant. Je veux plus tes peurs, que quiconque te gronde comme une gamine chialant, des trompes de frustration, bombe, explosion d'interdits qui construisent des soumissions, compagne d'aide dans ma tête. La colère de voir des générations entières de meufs ne pas se permettre. Je veux te voir m'en connaître et gueuler plus fort que le patriarche. Je veux te voir m'en renaître et gueuler plus fort que le patriarche.
Sorry, ma mère, for all this shit. Sorry, ma mère, for all your shit.
Je veux te voir m'en renaître et gueuler plus fort que le patriarche. Prendre la cravache et la cravate et rejouer les scènes à la bonne place. Rire des codes, draguer des queens, faire succomber des kings, jouer au PD, jouir en queen. Je veux te voir, man, ne plus savoir, revenir au foyer, fierté baissée, rôle unique.
Motherfucker. Motherfucker, yeah. Sorry, ma mère, for all this shit. Sorry, ma mère, for all your shit. Ma, 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 ma.
J'aurais tellement voulu kinguer ma mère.
Ma, ma, ma.
Pardon, maman.
Donc, on espère que vous avez aimé la petite chanson.
Ouais, grave.
Ouais, voilà. Donc, on reprend sur ce qu'on disait. Il me semble qu'on parlait des contraceptions. Et je disais pendant la petite pause, le temps de la musique, du coup, que je trouvais que même les préservatifs féminins, on n'en parlait pas des masses, en fait. Et mm-hmm. Bon, ça doit être assez dur à mettre, je pense. Donc, c'est aussi ça, peut-être, qui...
Mais en fait, le problème, c'est que... Alors, en plus, nous, c'est vrai qu'on évite maintenant les termes de préservatifs féminins ou masculins, parce qu'en fait, en gros, les préservatifs qu'on dit féminins, donc nous, on appelle ça des préservatifs internes ou externes, les préservatifs, en fait, internes peuvent s'utiliser en externe. C'est-à-dire qu'il y a la notice du préservatif féminin où on dit qu'il faut le mettre à l'intérieur de la vulve, voilà, ça peut être mis jusqu'à 3 heures en avance, utilisé pour deux rapports avec le même partenaire, parce que si c'est deux partenaires différents, s'ils ont des trucs, ils vont se les transmettre entre eux. Après, en tant que femme, on est quand même, on n'a pas ce problème-là. Mais en tout cas, c'est un préservatif qui, oui, on va l'expliquer comme ça. Et oui, ça peut faire peur à des femmes qui ont peur, par exemple, de mettre des choses à l'intérieur de leur vagin. Mais c'est un préservatif qui est soit pour les personnes en situation de handicap, sur les personnes qui ont pris des produits en festival. Oh là là, mon Dieu. En festival. c'est des préservatifs qu'on va conseiller. Et même pour les personnes sur leur premier rapport sexuel. Parce que on peut juste prendre le préservatif, enlever l'anneau à l'intérieur, le mettre directement sur le pénis, tenir pour la première pénétration et après l'utiliser plus ou moins comme un préservatif dit masculin. En fait, on peut l'utiliser comme un préservatif externe, c'est juste moins, ça sert beaucoup moins et c'est un poil plus épais, mais notamment pour quand on a peur pour les premiers rapports, que ça aille trop vite, que le préservatif soit trop serré, bah en fait, c'est l'occasion de tester autre chose et puis Et puis l'extérieur de l'anneau, il y a un petit bout qui est un peu dur, qui si on le colle un peu pas loin du clitoris, peut être encore ajouter du plaisir aux femmes. Et moi je pense qu'il y a aussi des choses comme ça à tester, de comment nos moyens de protection peuvent aussi être des moyens d'épanouissement et de plaisir. Faut en trouver là où il y en a.
En tout cas, merci pour la petite explication. Et pour revenir un peu sur la pilule, alors j'ai vu qu'il y avait une étude qui avait été faite, je sais pas si c'est une étude sérieuse ou pas, mais où des femmes disaient qu'elles avaient pris la pilule pendant très très longtemps, je sais plus du tout quelle pilule il s'agit. Il me semble que c'était, parmi celles qui dataient de pas très très longtemps, parce que je sais qu'il y a des générations.
Les nouvelles générations, ouais.
Et elle expliquait qu'en fait, elle est devenue, enfin, quand elle prenait la pilule, elle se sentait pas très bien, enfin, en gros, son humeur a changé souvent, enfin, ce genre de truc. Et quand elle a arrêté, elle s'est remise à vivre, en fait, entre guillemets, parce que la pilule, ça a des effets secondaires. Et c'est un peu ça d'ailleurs qui me fait peur, c'est ça que je ne pense pas la prendre quand j'aurai une vie sexuelle, quoi, voilà. Mais parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires, et c'est avec des copines, on se pose souvent la question, c'est quoi les alternatives à ça, en fait? Parce qu'on parle souvent de la pilule comme le contraceptif phare, avec le préservatif masculin, mais bon, à part ça...
Mais en France, en fait, le truc, c'est que c'est en France qu'on parle de la pilule comme étant le moyen de contraception. Au Canada, 80% des jeunes filles sont sous dispositif intra-utérin, qu'on appelle aussi stérilé. C'est-à-dire que c'est en France qu'on a ces pratiques-là. Tout moyen de contraception a des effets secondaires. Faut pas se mentir. Mais pour chaque femme, il y a un moyen de contraception qui peut lui convenir. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qu'on prône, c'est-à-dire le moyen de contraception, il ne te va pas, tu ne te sens pas bien, ça ne te correspond pas, change. Une personne qui trouve qu'une pilule, elle se sent mal sous une pilule, faut pas l'arrêter, parce que, alors ouais, il ne faut pas arrêter sa pilule n'importe comment, mais il faut retourner voir le médecin, lui dire non, celle-là ne me va pas, on essaye une autre. Et il y a plein d'autres moyens de contraception. Il y a les anneaux vaginaux qui vont mettre des hormones uniquement dans la zone, comme des dispositifs intra-utérins hormonaux. Alors pareil, hein, il y a une sorte un peu de polémique aujourd'hui autour du Mirena, qui est un dispositif intra-utérin hormonal. Après il y a celui au cuivre. Il y a différentes choses qui existent. Moi je pense que chaque femme réagit différemment à tout ça. Les hormones sont jamais toutes dosées de la même manière. Et oui, moi, je pense à ma sœur qui me dit qu'elle a été sous implant pendant très longtemps. Après, elle a cherché à avoir un enfant et elle a redécouvert sa sexualité comme ça. C'est-à-dire qu'elle disait que oui, ça avait un peu changé sa vie d'arrêter l'implant. Mais je pense parce que elle ne supportait pas, en fait, l'implant depuis très longtemps. Et on voit sur, par exemple, sur ces choses-là, des femmes qui portent des implants alors qu'elles ont, en même temps, à cause de la diffusion d'hormones, des saignements, on va dire, 3 semaines par mois, et qui continuent avec l'implant parce qu'elles se disent « ben, j'ai pas le choix ». Alors que si, elles ont le choix. Et en fait, l'idée, c'est que la contraception, ce soit quelque chose qui nous accompagne et pas uniquement une contrainte et quelque chose qui nous heurte, en fait. Et donc, chaque femme, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, est légitime. Et après, c'est de trouver des médecins qui arrivent à entendre cette voix-là, ce qui n'est pas toujours le cas parce que on n'écoute pas bien aujourd'hui, en tout cas, les femmes dans notre société. On le voit avec, notamment, alors ça change un peu de la contraception, mais sur la question de l'endométriose, qui est une maladie...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Une maladie, on s'est toujours dit, c'est normal que les femmes, elles aient mal pendant leurs règles. C'est normal que les femmes, elles se sentent pas bien, forcément, qu'elles puissent avoir mal au niveau de leur partie génitale. C'est rien, c'est le fait d'être femme, avoir mal. À un moment, ben non, en fait, il y a des maladies spécifiques, il y a des choses qui se passent. Et pour faire comprendre ça aux médecins, c'est encore difficile. L'endométriose, c'est une maladie qui est encore très peu reconnue, alors qu'il y a des moments, ça nécessite même des opérations chirurgicales. Et donc, c'est un peu compliqué dans notre société. Et heureusement qu'il y a quelques médecins qui aident à la reconnaissance, en tout cas de la douleur et de la souffrance des femmes et des maladies spécifiques aux femmes. Notamment, je pense à Martin Winkler, qui a écrit un chouette bouquin sur justement toutes ces voix de femmes, avec un livre qui s'appelle « Le cœur des femmes », que je conseille à tout le monde. Et c'est beau, ça emporte, et c'est vraiment un chouette bouquin.
D'accord, je vois. Non, mais c'est très intéressant de voir aussi ça, parce que vraiment, sur là, on n'avait pas vraiment parlé de ça, parce qu'on avait fait un sujet déjà sur le féminisme. On n'avait pas vraiment eu le temps de parler de contraception et tout, et c'est qu'il y a des choses que je ne savais pas, notamment aussi pour l'histoire du caleçon.
Ah, du slipper, du
roman
de couille, tous les ans, ouais.
Jonathan a l'air très intéressé. Ouais. Quand il va rentrer chez lui, il va taper sur Amazon pour essayer de trouver.
Une dizaine, hop, c'est bon.
Non, mais ça se vend pas sur Amazon, hélas. C'est encore. Mal. Mais c'est ça la problématique. C'est pas investi par les labos. Personne ne veut le faire. Parce que il y a cette croyance de. On va jamais, les femmes ne feront jamais confiance aux hommes pour la contraception. Mais en fait, on pensait. Enfin, il y a plein de choses. C'est les impensés sociétaux. Oui, peut-être que. Au début, ça va être difficile, et puis par la suite, non. Après, ça changera, et ça, c'est gênant, c'est cette idée de... c'est cette idée, c'est drôle, de... on pense que c'est fou. Bon, et puis après, ça deviendra dangereux, et à la fin, ça sera banal. C'est un peu l'idée de toute révolution, ça se passe un peu comme ça.
C'est vrai. Bah, c'est vrai, c'était la révolution féminine...
Féministe,
pardon. j'espère qu'elle arrivera bientôt. Enfin, c'est un peu con de dire ça, c'est en marche. Parce
non,
que
non,
là,
non, non, alors non, pas. Non, je refuse cette connotation.
Une petite blague. Non, je pense pas qu'elle est en marche, on va dire. Mais bon, donc... on a fini l'émission et Jonathan se marre comme une baleine, mais ce n'est pas grave. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend
soirée,
de quand vous écoutez
journée.
Ça.
Au revoir, c'est
voilà.
Bon.
Au revoir.
Donc,
c'est
au revoir et à la prochaine émission. Donc, envoyez-nous vos suggestions de thèmes dans les commentaires, hein, si vous voulez. Peut-être que on en fera un thème. Hein. On verra bien. Bon, allez. À bientôt.
Nous sommes toujours sur microrebelle.fr, hein, la web radio des alternatives sociales, politiques, dans le bassin minier et au-delà, et chez nos amis de PFM 99.9. Alors ce micro-rebelle hebdo se termine, et je voudrais pour terminer vous proposer de noter une date dès maintenant. C'est le jeudi 6 juillet, micro-rebelle organise son assemblée générale, donc ce sera à Liévin, hein, au 197 bis rue Émile Zola, dans les locaux, les studios de Micro-Rebelle. Donc on voudrait vraiment vous inviter, hein, nos auditrices, nos auditeurs. C'est un temps d'échange pour nous qui est important. On voudrait notamment discuter du sens et de la place pour une radio d'information telle que Micro-Rebelle, hein, une radio tournée vers les luttes sociales, politiques, économiques, féministes, antiracistes, écologiques. Et puis discuter aussi du projet de Micro-Rebelle avec les gens, les associations et les collectifs du territoire. On fera également pendant cette Assemblée Générale un petit retour sur l'activité très riche, hein, qu'on a eue cette année, depuis en quelque sorte la création de Micro-Rebelle, et puis évoquer les perspectives pour les mois qui viennent, les perspectives 2017-2018. Vous verrez qu'il y a vraiment des projets qui sont tout à fait intéressants pour les luttes que l'on mène, les alternatives que l'on conduit. Donc je vous rappelle cette Assemblée Générale et je vous y invite très chaleureusement. Hein, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous confirmer votre venue, hein, contact@micro-rebelle.fr. Donc c'est le 6 juillet à 18h à Micro-Rebelle. Hein, vous avez le plan d'accès sur notre site micro-rebelle.fr. Et puis pour finir la soirée d'une manière conviviale, eh bien, à 20h, donc après l'Assemblée Générale, on va tous et toutes se retrouver autour du barbecue de l'amitié. Voilà, donc notez bien cette date dès maintenant. Je vous rappelle que sur notre site micro-rebelle.fr, vous retrouverez l'ensemble de nos émissions, l'ensemble de toutes ces informations. Eh bien, je vais vous retrouver la semaine prochaine, hein, sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. À très bientôt.